Bonjour et très bonne fin de semaine, messieurs, dames. Bienvenue à la rétrospective de l'actualité économique sur votre radio. Panorama économique revient sur cette plainte du gouverneur de la Banque centrale du Congo contre les administrateurs et dirigeants de la BIAC. Deo Gracias Mutombo les accuse de mauvaise gestion et a entraîné la dilapidation de l'épargne du public. La réaction du procureur général de la République n'a pas tardé. Il a demandé dans une réquisition le gel des comptes des personnes physiques ainsi que de leurs entreprises logées à la TMB. Le Premier ministre était lundi devant le Sénat pour répondre aux questions et préoccupations lui soulevées par les sénateurs. Matata Ponyo a parlé de ses réalisations en 4 années, mais en conclusion, le sénateur Mokonda Bonza, initiateur de l'interpellation du Premier ministre, s'est dit non satisfait. Autre sujet au menu de ce panorama économique, la hausse du prix de l'Internet en RDC. Vous allez l'entendre, le vice-premier ministre et ministre de Postes et Télécommunications dit ne pas savoir de qui vient cette décision. Il dit avoir saisi l'autorité de régulation pour en avoir le cœur net. À Kindu, cité de Kalima, territoire de Pangui, nous parlerons de cette recrudescence de cas de vol à main armée. Une dizaine de cas sont enregistrés en moins de 10 jours. Voilà pour le titre. Messieurs, dames, bienvenue à la rétrospective de l'actualité économique sur Radio Okapi.
Panorama économique, le dossier.
Ouvrons notre dossier par cette décision qui est tombée en début de semaine, la décision du gouverneur de la Banque centrale du Congo, après la requête de l'Assemblée nationale au gouvernement et à la BCC. Deo Gracias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale, a porté plainte contre les administrateurs et dirigeants de la Banque internationale de l'Afrique au Congo. La plainte de Deo Gracias Mutombo était adressée au procureur général de la République avec copie réservée au chef de l'État, au Premier ministre et autres institutions du pays. Le contenu de cette plainte avec vous, François Kadima.
Le gouverneur de la Banque centrale a porté plainte contre 7 personnes. Il s'agit du président du conseil d'administration, le représentant de l'actionnaire majoritaire, le directeur général et président du comité de direction, un directeur et 3 administrateurs. Ces administrateurs et dirigeants de la BIAC sont accusés de mégestion et ont entraîné la banqueroute de la BIAC. Cette banqueroute a eu comme conséquence la dilapidation de l'épargne du public. Ces faits, selon la requête du gouverneur de la Banque centrale du Congo, violent la loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et méritent des sanctions pénales au regard de la loi bancaire. Il demande au procureur général de la République de s'impliquer personnellement dans ce dossier, ouvrir une action judiciaire urgente à l'encontre des responsables incriminés d'une part et d'autre part, prendre des mesures conservatoires visant à mettre sous séquestre les biens et avoirs de concernés ainsi que de leurs sociétés apparentées. Ces mesures favoriseraient la protection de l'épargne du public et la mise hors d'état de nuire de ces personnes.
S'agissant justement de l'épargne du public, le gouverneur de la Banque centrale du Congo avait rassuré le week-end dernier lors de la réunion du comité de politique monétaire qu'aucun épargnant ne perdra le moindre sou placé à la BIAC. La BIAC est mise justement sous gestion administrative de la Banque centrale du Congo. On écoute Deo Gracias Mutombo.
Je voudrais ici rassurer tous les déposants que personne ne perdra pas un seul franc de son épargne. Donc l'objectif poursuivi est de faire prendre à charge par les nouveaux repreneurs tous les dépôts. Et ça, c'est accepté par tous les repreneurs qui manifestent l'intérêt de reprendre cette banque. Tous les dépôts, donc tous les passifs, surtout dépôts, et une bonne partie des actifs. Et nous allons céder la BIAC à une banque, qu'elle soit étrangère ou locale, mais la banque doit être une banque solide, une banque qui fait montre d'une bonne gouvernance et une banque qui respecte les normes prudentielles pour en fait sécuriser les avoirs de déposants. Et je voudrais également rassurer les déposants de tous les systèmes bancaires que les difficultés de la BIAC avaient commencé bien avant. C'était depuis les années 2010, voire 2009. Nous attendons également un repreneur. Il y en a qui se sont déjà enregistrés parce qu'on nous a demandé d'avoir un bon nombre de soumissionnaires pour faire un choix objectif. Donc, tous les déposants doivent savoir que toutes les autres banques de notre système financier sont en très très bonne santé. Toutes les autres, à part les deux qui ont connu des difficultés depuis les années 2009-2010 et que nous sommes en train de redresser pour revendre, soit de reconfier à une banque pour la gestion de l'actif est passé. Mais toutes les autres banques qui sont dans notre pays sont en très bonne santé. Rassurez-vous, n'ayez pas de crainte. Même si le pays connaît un ralentissement de l'activité économique, les banques ont pris des dispositions pour réduire leur exposition, surtout aux entreprises minières.
Restons encore à Kinshasa et rendons-nous cette fois-ci au Parlement où le Premier ministre était à nouveau devant le Sénat. C'était lundi. Matata Ponyo a répondu aux questions et préoccupations des sénateurs lui adressées le jeudi de la semaine dernière. C'était lors de la question orale avec débat du sénateur Florentin Mokonda Bonza. Répondant à ceux qui, à l'instar de la FEC, ont demandé au Premier ministre de payer la dette intérieure, Matata Ponyo répond en ces termes.
La dette intérieure, surtout sa composante financière et commerciale, devait faire l'objet d'un traitement identique en vertu du principe pari passu qui veut que tous les créanciers soient traités de manière équitable. Cette démarche est d'autant plus justifiée que cette dette a été conclue presque dans sa totalité au titre de gré à gré. Et là, par ailleurs, plusieurs fois fait l'objet d'une actualisation abusive réalisée par les créanciers eux-mêmes sur fond des taux d'intérêt et du taux d'échange excessivement élevé. Un processus de certification de la dette intérieure est en cours par les organismes compétents. Il vise à la décliner en principal et en intérêt et à engager les parties concernées à une négociation sur une décote plus ou moins équivalente à celle effectuée sur la dette extérieure conformément au principe de traitement équitable des créanciers ainsi évoqué précédemment.
Tout en reconnaissant une certaine amélioration de quelques indicateurs macroéconomiques, notamment ceux relatifs au maintien du taux de change, le sénateur Florentin Mokonda Bonza a affirmé que le cadre macroéconomique est précaire et hypothétique. Quant à la dette intérieure, le sénateur pense que le gouvernement la paye de manière sélective et intéressée. On l'écoute.
J'aimerais faire un bref commentaire sur la stabilité apparente du fonds congolais que nous avons connu pendant 4 à 5 ans, qui ne trouve du reste sa justification que dans les faits suivants, notamment 1. La réduction du poids de la dette extérieure sur les finances publiques et la monnaie, que le Premier ministre ne signale pas. L'accroissement des transferts en devises des Congolais de l'étranger, qui alimente également les marchés de change. Le Premier ministre n'en parle pas non plus. L'exécution partielle du budget des dépenses courantes et d'investissement au détriment des services publics des provinces et des entités territoriales décentralisées. La liquidation sélective et intéressée de la dette intérieure. L'absence d'un dispositif budgétaire et monétaire bien réfléchi et exécuté pour assurer la réhabilitation des infrastructures existantes ou la construction de nouvelles infrastructures modernes. Juste en passant, j'aimerais signaler à l'opinion que contrairement à l'affirmation du Premier ministre le 2 juin dernier, en me renseignant auprès du système bancaire, le taux de change entre le dollar et le franc congolais se situe à près de 960 francs au niveau de la Banque centrale et autour de 980-85 francs au niveau des banques commerciales. Voilà les chiffres fournis par les banques.
Un autre sujet dans notre dossier de la semaine, l'accès à Internet coûte plus cher ces derniers jours qu'il y a quelques semaines. Qui a ordonné cette augmentation de tarifs? En tout cas, même le ministre en charge de postes et télécommunications ne sait pas répondre clairement à cette question. Je vous propose plutôt d'écouter cette interview que nous avait accordée le vice-premier ministre et ministre de PTNTIC, Thomas Louaka Saint-Trentin, ici avec Étienne Kalema.
Dans notre organisation administrative, il y a un organe chargé de faire la police dans le secteur des télécommunications. Ce n'est pas le ministère, c'est l'autorité de régulation des postes de télécommunications qu'on appelle l'ARPTC. Moi-même, j'ai constaté cette hausse brutale et simultanée des prix des télécommunications, en particulier en ce qui concerne l'Internet. Donc, depuis la fin du mois dernier, je crois que c'était le 30 mai, nous avons saisi l'autorité de régulation pour qu'elle puisse mener des investigations et nous dire pourquoi les opérateurs ont, du coup, en même temps, augmenté de manière parfois excessive, c'est-à-dire les prix sont multipliés fois 3, fois 4, fois 5, le prix de l'Internet. Nous aimerions comprendre cela. C'est vrai qu'on est dans un régime de libre concurrence, ça c'est autorisé. Les opérateurs peuvent fixer leurs prix, mais en informant au préalable l'autorité de régulation et avec des éléments justificatifs. Donc, nous voulons avoir des informations de la part de l'autorité de régulation. Pourquoi cette hausse? Je crains personnellement qu'il y ait attente, c'est-à-dire une concertation des opérateurs pour faire cette hausse simultanée et brutale. S'il y a entente, c'est en violation de la loi, parce que la loi interdit les ententes pour ne pas biaiser la libre concurrence.
Lorsque je suis les explications, j'ai comme l'impression que vous êtes surpris alors que vous êtes le numéro un de ce secteur.
Oui, en tout cas, je suis les responsables du secteur. Nous avons été surpris par cette hausse brutale du prix des télécommunications. C'est vrai, je sais aussi, les gens pensent que ça vient du ministère. Non, je peux informer, mais rassurer tout le monde, cette hausse des prix ne vient pas du ministère et il n'y a pas d'agenda politique derrière, parce que j'entends maintenant des spéculations comme quoi, oui, en fait, on veut, comme la situation politique est un peu préoccupante pour certains, on dit, on veut augmenter les prix de l'Internet pour empêcher les gens d'utiliser l'Internet. Non, en tout cas, ça ce n'est pas le point de vue du gouvernement. L'Internet a l'accès libre chez nous et le gouvernement n'a pas demander qu'on augmente les prix de l'Internet.
Panorama économique. Chaque samedi à 12h30, Radio Okapi vous offre le survol de toute l'actualité économique de la semaine dans Panorama économique. La vie de marché, les développements des entreprises, l'impact des décisions diverses sur la vie économique, c'est Panorama économique.
Autre information de la semaine en plus bref, tous les expatriés non en règle qui travaillent dans les sites miniers, y compris ceux couverts par des contrats de sous-traitance avec la Sokimo, doivent être expulsés sans délai de ces zones. C'est le ministre des Mines qui l'a annoncé dimanche dernier à la presse à Bounia, peu avant de quitter l'Ituri où il a passé près d'une semaine de travail. Martin Kabeloulou a fait savoir que cette exploitation minière qui se fait souvent à l'aide des dragues détruit l'environnement et ne rapporte pas de dividendes à l'État congolais. Il a confié l'exécution de cette mesure au gouverneur de la province de l'Ituri. L'administrateur du territoire de Kambove, territoire situé à 150 km de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, se dit satisfait de la présence d'une nouvelle entreprise minière qui vient de s'installer dans son entité. Il s'agit de la compagnie minière de Kambove, Komika en sigle. Elle va bientôt démarrer ses activités par l'exploitation du cuivre et du cobalt. La Komika a déjà commencé à recruter son personnel et l'administrateur du territoire Hippolyte Kalinga encourage sa population à participer à ce concours d'embauche. Les deux avions bombardiers Q400 de la compagnie Congo Airways ont été bel et bien fabriqués en 2010. Ils sont en parfait état de vol, sont rigoureusement inspectés par un centre de grande référence internationale, la hollandaise Samco. Cette affirmation, vous l'avez suivie cette semaine sur notre antenne, est contenue dans un communiqué de Congo Airways de lundi 6 juin. La compagnie voulait ainsi couper court à toute information qu'elle qualifie de non fondée qui était en train de circuler dans l'opinion congolaise. Le directeur technique de Congo Airways, Jean-Marie Loussamaki, était l'invité de Radio Okapi cette semaine et vous avez suivi en détail ce qu'il nous disait. En province de Tanganyika et dans le territoire de Manono précisément, les transporteurs routiers sur l'axe Lubumbashi-Manono se plaignent. Ces derniers disent perdre plus ou moins 600 000 francs congolais rien que pour le péage route. Il demande à l'autorité de réduire la taxe pour autant que la route reste en mauvais état. Ramazani Kiazakela, leur représentant, l'avait dit à Expedite Mwamba Mubi, notre permanent à Kalemie.
Panorama économique, matière première.
Matières premières, mais ces nouvelles qui nous viennent de Kindu ne sont pas fameuses. On signale la recrudescence des cas de vol à main armée à Kalima et ses environs, c'est dans les territoires de Pangi. Plus d'une dizaine de cas de vol à main armée ont été enregistrés en moins de 10 jours dans cette contrée. C'est une situation qui touche les économies de la pauvre population et la société civile s'en indigne. Elle appelle les autorités à prendre en main leurs responsabilités. C'est un dossier complet que nous propose Mathieu Ilunga Chamboui.
Le cas le plus récent est celui de la nuit du mercredi au jeudi 9 juin à Kamundala, 19 km de Kalima Centre, sur la route Lubile-Pangi-Chabunda. Les bandits armés ont cambriolé les domiciles des négociants. Après avoir tiré plusieurs coups de balle en l'heure, ils ont entré dans la maison et ont emporté 600 kg de cassitérite, 3000 dollars américains et d'autres effets. Information donnée par Honorable Raphaël Ngoumbi Chabani qui s'est rendu sur les lieux.
Les mains armées ont assiégé cette localité. Ils ont visité la maison d'océan des MMC qui s'appelle au nom de Boulaïmo. Ils ont tiré 10 balles en l'air pour disperser la population. Dans la maison, ils ont pris 3000 dollars plus 600 kilos de cassitérite. On a utilisé des armes lourdes, dont le MAG avec AK-47. Les mêmes malfrats avaient une camionnette. Kamundala, c'est dans les tronçons Kalima Lubile. Comment les gens peuvent transporter 600 kilos de cassitérite dans une camionnette jusqu'à ce temps on ne les attrape pas? Alors la population est en train de suspecter que les autorités ne font rien ou ils connaissent les gens. Ça, c'est le premier regret de la population. Deuxième regret de la population se dit, est-ce qu'ils pensent que Kalima c'est loin de Kindu ou c'est un message de dire qu'on ne veut pas les 30 jours chez nous?
Deux jours avant ce vol à Kamundala, une tentative de vol qui a duré plus d'une trentaine de minutes avec menace de coups de balle en l'heure a été déjouée grâce à un groupe de jeunes avisés de la cité de Kalima. Dans leur fuite, les bandits ont abandonné derrière eux une tenue militaire. Ce n'est pas tout. Dans la nuit du 5 au 6 juin, plusieurs coups de balle tirés à l'heure ont été entendus, 80 kg de cassitérite, 70 000 francs congolais et deux téléphones portables emportés, ainsi qu'un coup de balle au pied gauche de la femme des négociants propriétaire de la maison. Le quatrième cas a bout d'une semaine dans la même cité. Une situation qui indigne la population et la société civile. Témoignage de Justin Kiang Asmani, président de la société civile de Pangi.
La nuit aujourd'hui là, un vol à main armée chez un particulier acheteur de castérite qui a perdu 80 kilos de castérite et 70 000 francs et deux téléphones qui ont été emportés par ce malfrat. Alors ça nous inquiète. Nous sommes en train de dénoncer jour pour jour cette situation qui s'installe progressivement dans notre territoire pendant que nous sommes en train d'attendre l'arrivée du chef de l'État dans notre province et surtout que ça décourage le commerçant et les opérateurs économiques surtout qui viennent avec le marchandise pour sauver cette population. Ces opérateurs économiques peuvent craindre cette situation et ne plus venir vers chez nous.
Ces faits se sont produits à l'intervalle de 24 heures seulement. Après le vol, il y a eu lieu au niveau de l'agence des fret Kalima Express, juste après le passage d'un avion qui a amené les marchandises des opérateurs économiques et des privés. Les malfrats qui ont opéré avec un véhicule de marque Deep ont eu à emporter plus d'une tonne de marchandises des commerçants évalués à des centaines de milliers de dollars américains. Du côté de la PNC, le général Jean-Bertrand Bazengue dit que la police travaille et on a mis la main sur certains suspects.
Nous suivons de très près la situation qui se passe à Kalima. Et d'ailleurs, aujourd'hui, avant qu'il soit les après-midi, j'ai contacté au téléphone avec le commandant de la police de Kalima. Et je crois bien qu'on a pu procéder aux arrestations. Le travail se fait. Avec nous, nous sommes des héros dans l'ombre. Le travail se fait et je suis sûr qu'il y aura de bons résultats. Il y a la patrouille et les hommes sont dehors, notamment l'équipe de points chauds pour dissuader d'abord les malfaiteurs et puis rassurer notre population. Je crois que tout ira de mieux en mieux. Nous avons l'ordre et le rôle et le devoir d'assurer la sécurité de notre population.
Devant une telle situation qui ne cesse pas, la population demande aux autorités de prendre des mesures adéquates pour la protéger, la sécuriser ainsi que protéger leurs économies. Kindu, Mathieu Ilunga Chamboua Monachebe, Radio Okapi.
De Kindu, rendons-nous à présent à Lubumbashi où la société MD Service a été plébiscitée meilleure société dans le cadre de la sous-traitance dans le secteur minier. C'était en marge de la semaine minière de la RTC qui s'est tenue du 8 au 9 juin dernier à Lubumbashi. Pour le responsable de MD Service, ce couronnement est le fruit de plus de 10 ans de dur labeur. Pour lui, ce qui fait la différence, c'est notamment la formation du personnel mise à la disposition des entreprises minières qui les sous-traitent. On écoute Didi Modogo dans cet entretien avec Jean Gandou.
Monsieur Didi Modogo, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes.
Ben, vous êtes le responsable des MD Service. MD Service, c'est quoi exactement?
MD Service est une société de trois Congolais qui s'occupe de la sous-traitance du personnel spécialisé dans les secteurs miniers.
Et vous existez depuis combien de temps?
Ça fait 12 ans maintenant que MD Service existe.
Vous participez à la semaine minière de la RDC. Vous avez été plébiscité meilleur service de droit congolais. Qu'est-ce que ça vous fait?
Non, c'est une fierté... d'être plébiscité meilleure société de sous-traitance au Congo. Ça me fait un grand plaisir et c'est là, c'est grâce à la qualité des services que nous offrons à nos différents partenaires et la confiance qu'ils ne cessent de nous donner. Et puis, il y a la bonne sélection dans le processus de recrutement du personnel, la formation que nous donnons à nos agents, que nous fournissons à nos différents personnels et il y a une bonne collaboration avec nos différents partenaires.
Pensez-vous que ce que vous venez de numérer soit spécifique à vous quand on sait qu'il y a beaucoup d'autres sociétés ou d'autres entreprises qui sont dans la sous-traitance qui font exactement la même chose que vous?
On peut faire la même chose, mais il y a la qualité maintenant. Mais nous, nous essayons un peu de suivre ça à la loupe. Tu sais, la gestion du personnel, c'est quelque chose de très délicat. Gérer le personnel, c'est pas si facile que ça. Nous devons suivre scrupuleusement ce que nous faisons. D'abord, nous devons renforcer notre supervision. La supervision, c'est de faire un suivi permanent du personnel partout où nous les affectons. Quand on fait la sélection, on ne fait pas la sélection par sentiment ou quoi. On doit respecter d'abord tous les critères avant de recruter et d'affecter un agent auprès de nos différents personnels. Et c'est ça qui fait notre fierté. Puisque si vous faites une mauvaise sélection, et là c'est la merde auprès du partenaire. Après avoir sélectionné, il faut faire un suivi quotidiennement et donner un bon rapport. Surtout, nous renforçons chaque fois notre supervision. Non seulement les renforcer, et nous avons toujours des séances de formation que nous donnons à nos personnels. Après autant de mois, nous formons du personnel pour essayer d'améliorer davantage la qualité de nos services.
Ben, vous êtes dans le domaine de la sous-traitance dans le secteur minier, et nous savons que par ce temps qui court, il y a certaines entreprises minières qui ferment parce que sur le plan international, il y a la baisse du cours des métaux. Est-ce que cela vous frappe aussi?
Là, la grande partie des partenaires avec qui je travaille sont dans le secteur orifère. Bon, moi, j'ai les grands bureaux que nous avons, c'est au niveau du projet Kibali, que nous remercions davantage avec Marc Bissot qui ne cesse de nous promouvoir, parce que là, nous n'avons pas assez de difficultés. Nous, non seulement avec le Kibali, nous travaillons aussi avec Total, avec le projet Tesla, où nous offrons aussi le personnel. Ce qui fait que nous ne sommes pas vraiment frappés par la crise actuelle, d'autant plus que nous travaillons avec les secteurs miniers. Mais ce qui est important pour nous, c'est simplement d'améliorer la qualité des services que nous offrons à nos différents partenaires, quelle que soit la crise.
Et donc, dans la province de Katanga, vous êtes totalement absent?
Donc, dans la province de Katanga, on a un bureau de représentation. On a des partenaires avec qui nous travaillons en province orientale qui ont des bureaux de représentation ici. Par cette même occasion, je vous informe que MD Service aussi gère des expatriés avec la société Bodlonguer. Bodlonguer, c'est une société de droit américaine qui fait les forages. Nous a donné l'opportunité de faire la sélection des personnels expatriés que nous gérons. Il y a un grand nombre de personnels qui travaillent ici à Tenke Fungurume que nous offrons à Tenke Fungurume à travers les contrats que nous avons avec Bodlonguer.
Et quels sont les grands défis auxquels vous faites face?
Bon, les défis, très souvent, c'est un rapport de la sélection. Puisque très souvent, quand nous avons quelque part, là où se trouvent les partenaires, nous devons fournir un effort pour sélectionner d'abord les locaux. C'est notre spécificité aussi. Alors, les défis pour nous, c'est de faire appel à d'autres personnels qui viennent d'ailleurs, qu'on n'arrive pas à trouver sur place. Ça sont toujours des défis qu'on trouve avec la communauté. Or, quand nous sous-traitons du personnel, non seulement nous gérons le personnel, nous gérons aussi de bonnes relations entre la communauté et les partenaires. Puisque nous ne pouvons pas créer des conflits des agents auprès de nos partenaires. Là, ça n'arrange pas les business de nos partenaires.
Et quel est le bénéfice que vous tirez de votre présence à cette semaine minière de la RDC?
Ah, il y a un bénéfice, c'était très bénéfique pour nous, d'autant plus qu'on a eu ce trophée. C'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Sauf que c'est maintenant qu'on vient d'insérer la sous-traitance dans leur programme. Avant, c'était les mining, avant, comme on vient de reconnaître ça. Et c'est quelque chose de très important.
Didi Mondogo, je vous remercie.
Et c'est la fin de Panorama économique de cette semaine, mise en onde par André Mongou. Je vous salue et je vous souhaite de passer de très bons moments en compagnie de la Radio Okapi. Très bonne fin de semaine à toutes et à tous.